VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manila Kidza à la présentation de cette édition du mardi 4 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Nigeria, 17 villageois tués par des hommes armés dans le centre du pays. En Côte d'Ivoire, trafic de fausses attestations de tests Covid à Abidjan. L'Inde renforce sa campagne de vaccination face à une forte augmentation des cas de coronavirus. Le G7 envisage un front commun face à la Chine. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Dans le centre du Nigeria, 17 villageois ont été tués par des bergers peuls présumés au cours de deux attaques séparées dans l'état de Benue. Les détails avec Nanit Talen.
Des hommes armés ont tué 15 villageois qui étaient principalement des agriculteurs lors d'une attaque menée à l'aube lundi. Il y a eu une autre attaque sur la route Naka à Gagbe où deux personnes ont été tuées dimanche soir, a déclaré Ken Atiabo, un assistant du gouverneur de l'État, ajoutant que ces violences ont poussé les habitants à fuir leur foyer. La porte-parole de la police d'État, Catherine Anene, a confirmé ces attaques attribuées à des bergers peuls. L'armée a exprimé lundi son soutien au président Muhammadu Buhari, critiqué de toutes parts pour son incapacité à endiguer la sécurité dans le pays. Le porte-parole de l'armée, Onyema Nwachukwu, affirme que les militaires rejettent toute probabilité d'un coup d'État et promettent de rester fidèles au président Buhari et à la Constitution.
Le chef de la mission d'enquête de l'Union africaine sur la situation politique et sécuritaire au Tchad estime que c'est aux Tchadiens et aux Tchadiennes de sortir leur pays des difficultés. Un gouvernement de transition a été nommé par la junte dimanche soir, moins d'une semaine après la nomination d'un premier ministre de transition. L'Union africaine a envoyé une mission jeudi au Tchad pour déterminer si l'organisation prendrait des sanctions contre N'Djamena. La mission doit quitter demain pour remettre son rapport au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine qui va se prononcer ensuite sur la conduite à tenir. Les autorités de Bangui ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur des exactions présumées attribuées par l'ONU à des militaires centrafricains et à des supplétifs privés russes qui les épaulent. La MINUSCA a remis au président Faustin Archange Touadéra une liste d'allégations de torture, violences sexuelles, traitements cruels, arrestations arbitraires entre décembre 2020 et avril 2021 et mettant gravement en cause les forces nationales et bilatérales. Le ministre de la Justice a ordonné la mise en place d'une commission d'enquête spéciale pour faire la lumière sur ces accusations, a déclaré lundi le procureur général Éric Didier Tambo. L'ambassade de Russie à Bangui dénonce une enquête fondée sur du bouche à oreille et ne prouvant pas que des instructeurs russes sont les auteurs d'exactions. La guerre dans la région éthiopienne du Tigré a séparé des milliers d'enfants de leurs parents et beaucoup d'entre eux font désormais face à des conditions terribles dans des camps de déplacés, affirme mardi l'ONG Save the Children. Certains enfants ne bénéficient pas de conditions de garde sûre, sont hébergés dans des pièces uniques où dorment plus de 50 personnes, ajoute Save the Children. En Côte d'Ivoire, la police a arrêté une dizaine de personnes à Abidjan, accusées d'avoir participé à un trafic de fausses attestations de tests négatifs au Covid-19. Yacouba Ouedraogo.
Trois infirmiers et une dizaine d'autres personnes ont été arrêtées selon la police, qui dit poursuivre l'enquête. Ces personnes délivraient de fausses attestations de tests négatifs au Covid-19 au prix de 45 000 francs CFA à des passagers embarquant à l'aéroport d'Abidjan. Les faussaires disposaient d'une application leur permettant de modifier les noms et de scanner la signature de la directrice de l'Institut Pasteur à Abidjan, la professeure Mireille Dosso, qui signe les vraies attestations. Ils avaient en plus des complices à l'aéroport d'Abidjan qui laissaient passer les détenteurs de ces fausses attestations sans les vérifier. Officiellement, le pays a enregistré hier 287 morts pour plus de 46 000 cas. En dehors de l'obligation de porter un masque dans les lieux fermés et l'incitation à respecter les gestes barrières, aucune autre mesure restrictive n'est imposée. Le pays a réceptionné fin février 504 000 doses de vaccins AstraZeneca. Une campagne de vaccination a été lancée le 1er mai, visant d'abord les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants.
Deux patients sont décédés mardi matin dans l'incendie d'un service dédié au traitement du COVID-19 dans un hôpital du nord de l'Afrique du Sud. L'incendie pourrait avoir été provoqué par un patient qui fumait une cigarette, selon des informations non confirmées dans l'immédiat. Plusieurs pays ont pris de nouvelles mesures pour renforcer la prévention et assouplir le confinement. La pandémie a déjà fait plus de 3 millions de morts dans le monde. Le point avec Rosine Munezero.
Les voyageurs arrivant en Tanzanie devront désormais présenter un test négatif datant de moins de 72 heures. Le gouvernement espagnol a prolongé jusqu'au 25 mai les restrictions concernant les vols en provenance du Brésil et d'Afrique du Sud. L'Allemagne va lever plusieurs restrictions, dont l'obligation de test négatif pour entrer dans des magasins ou les limitations de réunions privées pour les personnes vaccinées. Aux États-Unis, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé la levée de toutes les restrictions dans son État, mettant en avant l'efficacité de la campagne vaccinale. Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York, a annoncé lundi l'ouverture imminente du métro new-yorkais 24 heures sur 24. Des milliers d'Australiens sont coincés en Inde depuis que Canberra a interdit les entrées sur son territoire depuis l'Inde, provoquant la colère et la polémique. En Inde, la flambée des cas est attribuée à des rassemblements religieux et politiques, ainsi qu'à l'inaction du gouvernement de Narendra Modi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le G7 veut faire front commun face à une Chine de plus en plus influente sur la scène internationale. Les ministres des Affaires étrangères du groupe se sont retrouvés lors de leur première réunion en personne en plus de 2 ans. Abdulrahman Jia pour les détails.
Au lendemain d'un dîner consacré au programme nucléaire de l'Iran et de la Corée du Nord, les chefs de la diplomatie des pays riches ont ouvert des discussions formelles ce mardi à Londres. Leur première réunion a été consacrée à la Chine, terre économique incontournable dont la volonté de s'affirmer comme une puissance militaire et d'exercer son influence dans le monde inquiète les capitales occidentales. Notre objectif n'est pas d'essayer de juguler la Chine, a confié hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, mais plutôt de faire respecter l'ordre international fondé sur des règles. Le patron du département d'État s'est engagé à une coopération robuste avec le Royaume-Uni pour faire pression sur Pékin concernant la répression du mouvement pro-démocratie à Hong Kong et celle de la minorité musulmane ouïghour qualifiée de génocide par Washington. Les chefs de la diplomatie des pays du G7 se réunissent jusqu'à demain pour tenter de s'accorder sur des réponses communes aux menaces mondiales.
La justice française a relaxé mardi la patronne de l'extrême droite Marine Le Pen, poursuivie pour avoir diffusé en 2015 des photos d'exaction d'un groupe État islamique. Le tribunal de Nanterre près de Paris a par ailleurs reconnu une vocation informative dans la diffusion de ces images qui s'inscrit dans une démarche de protestation politique. La diffusion contribue au débat public dès lors qu'elle ne banalise pas la violence. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a plus que quelques heures pour rassembler l'ensemble des forces de droite du pays, voire pactiser avec des islamistes afin de former le prochain gouvernement. Monsieur Netanyahou doit réunir une majorité de 61 députés sur les 120 de la Knesset, le Parlement. Le Premier ministre a multiplié les contacts ces dernières semaines dans l'espoir d'atteindre ce seuil. Le Liban et Israël ont repris mardi des pourparlers indirects parrainés par Washington sur la démarcation de leurs frontières maritimes après des mois d'interruption en raison de divergences sur la zone contestée. 2 roquettes ont été tirées mardi sur une base abritant des Américains, a indiqué l'armée irakienne. Cette 3e attaque du genre en 3 jours est intervenue au même moment où Bagdad recevait une délégation gouvernementale américaine. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a déclaré mardi que Washington devait répondre aux attaques du pouvoir du Salvador contre l'indépendance de la justice et plus largement à la corruption qui mine l'Amérique latine. Kamala Harris a été chargée par le président américain Joe Biden de gérer le dossier sensible de l'immigration, a promis Une action globale contre les causes à la racine de l'afflux de migrants à la frontière avec le Mexique. Elle a confirmé qu'elle se rendrait dans un mois au Guatemala et au Mexique. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a promis mardi une enquête approfondie avec l'aide d'experts internationaux indépendants sur l'accident du métro à Mexico qui a fait au moins 23 morts après l'effondrement d'un pont. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce soir par John Lyndon.
En RDC, la zone économique spéciale de Maluku, à l'est de Kinshasa, va abriter une usine de montage de véhicules Made in Congo de la firme chinoise Chery Tigo. Il s'agit de la deuxième firme après Hyundai à manifester son intérêt à investir dans le secteur de l'automobile en République démocratique du Congo. MTN Nigeria, filiale du groupe sud-africain des télécoms, annonce que son chiffre d'affaires s'est établi à un peu plus d'$1 milliard à fin mars 2021 contre 875 millions de dollars à la même période de l'année écoulée, soit une augmentation de 17%. MTN détient la plus grande part de marché de l'abonnement Internet au Nigeria avec environ 42%. KiwiPay se lance à la conquête de la monétique de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La firme singapourienne vient de conclure un partenariat avec le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale en vue d'étendre le paiement numérique dans cette partie du continent. Avec 8 millions de transactions en 6 ans, l'activité du JIMAC s'inscrit dans la montée avec environ 280 milliards de francs CFA mobilisés pendant la période considérée.
Nous passons directement à votre page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La Confédération africaine de football envisage de repousser les deux premières journées des qualifications pour le Mondial 2022 de juin à septembre car de nombreux stades ne sont pas homologués. Le comité d'urgence de la CAF a validé lundi la décision. Nous attendons la validation du comité exécutif le 15 mai, explique un président de fédération. Le comité d'urgence de la CAF a disqualifié des stades dans 22 des 54 pays membres de la Confédération. Parmi ces pays, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal. Depuis Dakar au Sénégal, justement, Amdine Nassi, notre consultant sportif, nous explique pourquoi les Lions de la Teranga se retrouvent sans stade.
Au Sénégal, on n'avait que deux stades qui pouvaient accueillir les compétitions continentales. Et le stade Léopold Sédar Senghor a été fermé depuis plus de deux ans. Il n'y avait que le stade Ladior. Et ce stade a été homologué provisoirement par les responsables de la CAF. Mais malheureusement, les responsables de la FIFA ne l'ont pas homologué. Donc le Sénégal sera obligé d'aller jouer à l'extérieur, ce qui constitue une honte pour un pays comme le Sénégal, qui est non seulement classé première nation africaine, mais qui a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations.
Amdine Sy, notre consultant sportif à Dakar. Match retour en demi-finale de Ligue des Champions ce soir en Europe, battu à domicile 2-1 à l'aller. Le Paris Saint-Germain des Sénégalais, Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye, ce dernier suspendu pour un carton rouge écopé à l'aller, a laissé à Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez le statut de favori pour décrocher un ticket pour la finale du 29 mai à Istanbul. Ici, en NBA, les stars de Washington, Golden State et New York ont fait gagner leur équipe. En revanche, l'étoile camerounaise de Philadelphie a moins brillé. Bagassi Koura.
Oui, candidat au titre MVP, Joel Embiid a été dans un soir moyen, 13 points, 10 rebonds, mais l'Union a fait la force du côté de Philadelphie pour s'imposer à Chicago 106 à 94 et conserver la tête à l'Est. Personne ne les a vus venir cette saison et ils sont intenables. Les Knicks ont aligné une 12e victoire en 13 matchs chez les Grizzlies 118 à 104 pour conforter leur 4e place à l'Est. New York devance Atlanta, 5e tombeur de Portland 123 à 114. Les Lakers se sont rassurés face à Denver 93 à 89. Utah reprend les commandes à la faveur de sa victoire contre San Antonio, 110 à 99. Washington prend le dessus sur Indiana, 154 à 141. La Nouvelle-Orléans a peut-être perdu ses chances d'accrocher les barrages battus 123-108 par Golden State, un succès dû à Stephen Curry, toujours lui, 41 points, 8 passes décisives, dépassant pour la 9e fois cette saison la barre des 40 points.
Merci, Bagasekura.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Malherbe va nous retrouver avec vous pour aborder les dossiers du jour. L'état de siège proclamé lundi par le président Félix Tshisekedi entre en vigueur jeudi. Une administration militaire sera mise en place dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et la population est appelée à collaborer avec les forces de l'ordre. Eddie Isango a joint J. Fred Bahuma, analyste du groupe d'études pour le Congo, observatoire sécuritaire du Kivu.
C'est difficile à dire à ce stade ce que l'état de siège va apporter. Mais je pense que l'idée derrière le gouvernement, c'est de donner le pouvoir entier aux militaires et de leur permettre de mener des opérations dans la région du Nord Kivu et de l'Ituri pour mettre fin au groupe armé. À ce stade, c'est très difficile de dire si cet état d'urgence va résoudre réellement le problème. Je pense que pour nous, on a beaucoup de doutes sur son efficacité. Également, on a vu par le passé que lorsqu'on donne plus de pouvoir aux militaires dans cette région, souvent, ça aboutit à plus d'abus sur la population civile et parfois les résultats militaires qui sont obtenus ne sont pas durables. On a vu depuis 2014, il y a eu plusieurs opérations dans cette région-là qui sont continuellement, mais les zones qui sont récupérées sont souvent perdues de nouveau. Mais la grande crainte, je pense, par rapport à la mesure à cet état d'urgence, c'est les abus qui peuvent en découler et tout ça. Sans véritablement résoudre les causes profondes des conflits à l'est du pays.
Des complicités sont de plus en plus dénoncées. Récemment, d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, mais aussi d'autres personnalités congolaises, ont publiquement dénoncé des complicités au sein de l'armée et des services de sécurité. L'état de siège veut dire aussi mettre en place, comme l'a dit le président de la République, Félix Tshisekedi, une administration militaire. Pensez-vous que cela puisse résoudre ce problème? Comment résoudre ce problème de complicité qu'il y a au sein de l'armée même?
Le problème de complicité n'est pas le seul problème au sein de l'armée. C'est qu'on on parle de complicité. On parle aussi d'autres problèmes structurels au sein de l'armée, notamment la capture des énormes ressources de l'armée par une petite élite militaire. Et donc les soldats de rang ne reçoivent pas grand-chose à la fin. On a aussi vu que les officiers, parfois dans ces régions, qui sont amenés dans ces régions, finissent par se transformer en sorte de businessmen. Ils sont impliqués dans plusieurs types d'affaires, parfois illicites. Ma crainte, c'est que l'administration publique à l'armée pendant cette période, l'administration politique et sécuritaire à l'armée pendant cette période-là, sans avoir résolu les problèmes structurels qui existent au sein de notre armée, on risque juste de voir l'aggravation de ces éléments qu'on reprochait déjà au FARDC avant.
Jeffrey Bahuma, du groupe d'études pour le Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Recrudescence des attaques armées au Burkina Faso. Au moins une trentaine de civils ont été tués ce lundi dans le village de Kodiel, dans l'est du pays. La semaine dernière, trois Occidentaux ont été tués dans une embuscade dans la même région et plusieurs autres attaques ont fait plus d'une vingtaine de morts dans le nord du pays. À Ouagadougou, les citoyens s'inquiètent. Voici quelques réactions recueillies par notre correspondant Lamine Traoré.
En tant que Burkinabé, c'est décourageant quand même. Parce qu'on ne peut pas se lever chaque fois le matin et entendre qu'il y a eu des morts et puis être insensé. C'est vraiment difficile.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous?
Vraiment, ça c'est compliqué. Parce que déjà, moi, je me dis que peut-être le défaut aussi peut-être vient un peu des médias. Il faut éviter de donner souvent la position des FDS et des VDP, là, souvent.
Et l'État dans tout ça?
L'État, ça nous concerne. Il ne faut pas qu'on voie le gouvernement seulement. On est tous concernés. Quand on dit l'État, c'est nous tous, le gouvernement, pas seulement le gouvernement. Maintenant, chacun essaie de jouer son rôle. Il faut que l'État aussi essaie de, comme on appelle, de vraiment mettre les moyens qu'il faut.
C'est un pincement au cœur que j'ai. Voir quelqu'un, c'est vrai que nous ne connaissons pas, mais le fait de savoir qu'une famille perd un membre ou que quelqu'un qui est allé pour défendre son pays tombe sur le champ d'honneur, je l'ai dit, c'est quand même quelque chose qui est assez touchant. On peut dire que c'est un sacrifice que ces personnes font pour la nation.
Qu'est-ce que l'État devrait donc faire selon vous?
C'est encore plus sécuriser ces zones. Il faut que des moyens militaires soient encore déployés. Donc des moyens qui sont plus performants, soient déployés, parce que personnellement je me dis que c'est parce que nous ne sommes pas totalement outillés en armement. Que
vous le pensez réellement?
C'est quelque chose que je pense. Si je prends l'exemple des VDP, pour une formation je pense de 6 mois pour aller sur le terrain, bon, pour moi je pense que c'est quand même insuffisant.
Ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est que il y a eu du relâchement sur le terrain en matière de lutte contre le terrorisme, ce qui explique la recrudescence des attaques. Quand j'ai dit de relâchement, bon, l'armée a levé certaines dispositions qu'on pouvait déjà constater sur le terrain, telles que les ratissages, et puis on n'est pas apte à anticiper les actions, à contrecarrer les terroristes dans leur progression. On n'anticipe pas, en fait.
Pensez que les populations alertent les autorités?
Tout à fait, tout à fait. C'est toujours dénoncé, mais on ne prend pas les dispositions pour intervenir avant, pour stopper les terroristes dans leur marche.
Entre-temps, avec les élections, on voyait qu'il n'y avait pas, ou du moins, on n'entendait plus parler d'attaques à gauche, à droite comme cela, mais ces derniers temps, il y a eu une recrudescence. Cela doit interpeller davantage l'État à prendre ses responsabilités, et en plus de ces attaques, on voit des groupes armés terroristes qui se permettent d'aller négocier avec les populations. Vu tout ça, l'État ne communique pas, on ne sait pas si ce sont des vidéos authentiques ou qu'est-ce qui se passe réellement dans ces zones-là. Donc l'État doit vraiment, vraiment prendre ses responsabilités.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Nigeria, manifestation ce matin des parents des étudiants enlevés à l'Institut forestier de Kaduna il y a plusieurs semaines. Ils sont venus jusqu'à Abuja pour attirer l'attention des autorités fédérales sur les conditions de leurs enfants entre les mains de leurs ravisseurs. Le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant sur place.
Ils étaient quelques dizaines à effectuer le déplacement d'Abuja pour réclamer la libération de leurs enfants détenus par des hommes armés depuis près de 2 mois. C'est le 11 mars dernier que des hommes armés ont envahi l'Institut forestier de Kaduna, enlevant au moins 39 étudiants. Témoignage d'une étudiante qui a vécu les moments forts de l'attaque, Raida Christiana.
Quand nous avions entendu les coups de feu, presque tout le monde a fui de la salle d'auditorium pour se cacher. Partout où on pouvait se cacher, il y a 2 grandes salles avec une partition entre les deux et il y avait des chaises détruites dans l'une des salles. Donc je suis allée me cacher sous ces chaises. De là, j'ai appris que les bandits sont arrivés et je pouvais entendre leur voix.
Bensin Ede est père d'un étudiant en captivité. Il est arrivé ce matin à Abuja en compagnie d'autres parents.
Le problème est que notre gouverneur ne veut pas aider. Il a contribué à cette situation dans laquelle nous sommes jusqu'aujourd'hui. Il a refusé de coopérer et en plus il dit qu'il ne veut pas négocier avec les bandits. Je suis d'accord, mais quelles sont les démarches qu'il mène pour permettre la libération des enfants? Rien, rien du tout, mais au contraire, il nous menace.
La manifestation d'aujourd'hui fait partie d'une série de protestations des parents déjà menées à Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, pour obliger les autorités de l'État à négocier avec les ravisseurs de leurs enfants. Mais le gouverneur de l'État de Kaduna, Nasir El Rufai, a toujours clamé qu'il ne négocierait pas avec les criminels. Le temps passe et l'angoisse chez les parents ne cesse d'accroître. Epete Odide est aussi venu de Kaduna à cause de son fils, toujours entre les mains des hommes armés.
La situation est très compliquée pour nous, par moi seul. C'est pourquoi nous avons décidé de venir à l'Assemblée nationale. Nous avions contribué à leur élection au Parlement, mais la situation du pays en ce moment nous laisse croire qu'il est difficile de voter pour quelqu'un et qu'il revient contre vous.
Trois étudiants enlevés mardi dernier dans une autre université dans le même état de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria ont été exécutés par les ravisseurs. Un nouveau signe d'escalade de violence dans ces enlèvements de masse contre rançon. La manifestation d'aujourd'hui a aussi connu la participation de certains activistes, comme Obeyere Sowore, venu soutenir les parents en détresse.
Les étudiants qui se battent pour un avenir meilleur, ils pouvaient eux aussi devenir des kidnappeurs pour gagner de l'argent facile. Mais ils ont préféré aller à l'école. Mais voyez ce que fait notre gouvernement contre eux. Personnellement, je connais ce que ça veut dire d'être en captivité après avoir été enlevé une fois moi-même par le gouvernement.
Depuis décembre, plus de 600 élèves ont été enlevés dans des écoles du nord-ouest du Nigeria, ce qui met en évidence une évolution inquiétante de la crise des enlèvements contre rançon dans le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
L'Inde a étendu sa campagne de vaccination à tous les adultes alors qu'elle subit une forte augmentation des cas de coronavirus. Mais la pénurie de vaccins dans le pays signifie que l'immunisation de la majorité des 1,4 milliard d'habitants est encore un objectif lointain. Un reportage d'Anjana Patricia à Mumbai, relaté par Nathalie Barge.
C'est un véritable coup dur pour l'Inde qui subit une pénurie de vaccins au moment où elle étend sa campagne d'immunisation à tous les adultes. Sahil Kapoor, un habitant de New Delhi.
La situation est extrêmement lugubre. Je veux dire bien sûr qu'il n'y a aucun mot qui puisse expliquer que la situation soit aussi sombre. Le système est au bord de l'effondrement et c'est la raison pour laquelle nous essayons de nous faire vacciner le plus tôt possible.
Certains États disent qu'ils ne peuvent pas couvrir la tranche d'âge des 18 ans et plus. Ils refusent même les personnes âgées car les stocks de vaccins sont insuffisants. L'Inde est le premier producteur mondial de vaccins, mais les quelques 70 millions de doses produites par mois ne suffisent pas à répondre à ses besoins. Srinath Reddy, président de la Fondation de la Santé publique d'Inde.
Même si vous prenez le groupe d'âge 18-44 ans, qui est le nouveau venu dans le programme, nous parlons de 595 millions de personnes, donc nous parlons de 1,2 milliard de doses. N'est-ce pas? Car tout le monde a besoin de deux doses de vaccin. Donc, c'est une tâche énorme et nos stocks sont actuellement loin d'être à la hauteur.
Le gouvernement a intensifié ses efforts pour obtenir des vaccins de l'étranger. Des doses de Sputnik V sont arrivées de Russie. Des efforts sont déployés pour accélérer la fabrication nationale, mais cela pourrait prendre des mois pour combler les lacunes. Des experts affirment que l'Inde n'a pas stocké suffisamment de vaccins car elle a prématurément déclaré victoire contre la pandémie. Elle a envoyé environ 65 millions de doses à d'autres pays. Par conséquent, la grande majorité de la population en Inde était sans protection lors de la deuxième vague de la pandémie, avec seulement 2% de personnes inoculées et 10% ayant reçu une dose. La peur est perceptible dans les villes comme New Delhi, où les hôpitaux et les crématoriums sont débordés. Piyush Kumar, un habitant de la capitale.
J'ai supprimé les applications de médias sociaux pendant une semaine parce que je ne pouvais plus supporter. Et chaque fois que vous ouvrez Twitter, c'est sans arrêt. Mais j'y suis finalement retourné car beaucoup de gens cherchent de l'aide sur cette plateforme. Et si je peux aider, je dois être disponible. Les temps sont très inquiétants.
Une inquiétude croissante dans le pays qui mène une bataille permanente pour les lits d'hôpitaux, les médicaments et l'oxygène, tout en visant à vacciner sa population de plus d'un milliard d'habitants.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction.
Merci aussi à l'équipe de la production composée de Lionel Doudamé-Galima, Michel Pierre-Joubert, Georges Lannon-Arsagno et Michel de Morissin qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Mandasida était à la présentation. Merci à nos bons aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur VeroAfrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram.